Après avoir amorcé la deuxième moitié de saison avec un gain contre les Argonauts de Toronto, les Alouettes tentent de signer une deuxième victoire d'affilée pour la première fois depuis près de deux ans. Solide à ses deux premiers départs, Antonio Pipkin obtient une troisième chance de se faire valoir, tandis que Johnny Manziel est maintenant prêt à revenir au jeu. Alouettes, rouge et noir, en direct d'Ottawa, au réseau Cogeco. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Ottawa où il fait un temps, encore une fois, parfait pour le football. De toute façon, s'il neigeait, s'il pleuvait, on dirait que c'est un beau temps d'automne pour le football. Mais là, Steve Charbonneau, c'est vraiment le temps parfait. Même les joueurs ne peuvent pas se plaindre.
Il fait 22 degrés ici à Ottawa. Un petit peu nuageux, mais pas beaucoup de vent. C'est une très belle soirée pour le football. Ça, on aime ça. Juste avant là, qu'il commence à faire froid, là, on aime ça. Parce que c'est toujours dans le mois de juillet.
Et ça souffre. Il fait plus chaud. Les gros monsieur, là, je ne vais pas faire allusion à ton 272 livres, qui était 300 à l'époque où tu jouais, mais ils ont souffert.
Bon, oui, des journées chaudes au football avec l'équipement, le casque et tout ça, tu peux perdre entre 8 et 10 livres facilement quand t'es un gros bonhomme sur la ligne de mêlée.
Et là, c'est le week-end de la fête du travail. C'est là que ça commence dans la Ligue canadienne, la course au match éliminatoire. Oui. Aujourd'hui, les Alouettes ont besoin d'une victoire, mais le rouge et noir également. Dimanche, ça va être le fameux Banjo Bowl entre Winnipeg et Saskatchewan pour le championnat des prairies. Et puis, lors du lundi de la fête du travail, ben, la bataille de l'Alberta entre Calgary et Edmonton, de même que le combat des loyalistes entre Hamilton et Toronto. C'est tout un week-end avec des matchs importants. Du côté des Alouettes, c'est Antonio Pipkin qui est le quart arrière partant. Johnny Manziel est prêt. Johnny Manziel n'a plus mal à la tête, sauf peut-être, il y a peut-être des maux de tête qui lui sont causés par la performance de Pipkin, parce que là, il doit voir son retour éventuel dans la Ligue nationale de football. Il doit se demander, est-ce que je suis en train de me faire faire la même chose qu'à Hamilton? Est-ce qu'il y a un quart arrière qui va soudainement émerger puis prendre le job à temps plein?
Ouais, ben écoute, Jean, c'est sûr qu'on se posait la question à savoir s'il était pour avoir une controverse de quart arrière. Sais-tu, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de bon quart arrière à Montréal que si on en a deux, pas pire, là, essayons de gérer ça, la situation, comme il faut pour pas en perdre un des deux. Parce que on a eu, évidemment, Cavillo qui on n'a jamais préparé un numéro 2 derrière lui. Donc, là, présentement, on a deux jeunes carrières. Si eux comprennent le concept d'avoir un numéro 1, numéro 2, vice-versa, là, dans l'ordre ou dans le désordre, c'est très, très, très avantageux parce que tu bâtis un système pour deux carrières qui jouent à peu près le même style de football. Donc, tu n'as pas besoin de changer du tout au tout quand tu changes de carrière. Donc, c'est un avantage pour Montréal. Puis, c'est sûr que Montréal essaie de bâtir pour l'avenir. Et est-ce que c'est ces carrières-là qui vont faire partie de cette relance-là à Montréal? On l'espère.
En tout cas, Johnny Manziel avait l'impression que c'était son équipe. C'est évident que la commotion cérébrale, les Alouettes se sont fait blâmer pour ne pas l'avoir retiré du match trop vite. Mm-hmm. Mais moi, je suis persuadé que Johnny Manziel ne voulait pas sortir du terrain et a tout fait pour que sa commotion ne paraisse pas. Je pense que les maux de tête, il les a pas déclarés tout de suite. Fallait vraiment qu'il se sente affecté le mardi matin pour dire. Ouais. Mais là, finalement, il y a peut-être quelques séquelles.
Écoute, tu portes pas le surnom de Johnny Football et ne pas être un combattant. T'sais, sur le terrain, ce gars-là, c'est sûr que c'est un leader naturel. Il voulait être sur le terrain, il voulait mener son équipe à la victoire. Puis, mais en même temps, c'est évidemment, t'as un protocole, t'as pas le choix, tu suis le protocole, et c'est sûr qu'il y avait une situation au préalable avec une médication qu'il prenait aussi, ça semble avoir affecté aussi le contact avec cette situation-là. C'est sage de leur part de laisser Manziel retrouver son rythme, parce que est-ce qu'il a déjà eu son rythme? Tu sais, il a été mis sur le terrain rapidement, là.
Il était mis sur le terrain rapidement après une longue période d'inactivité, oui. Parce que ça fait quand même deux ans qu'il n'a pas joué des matchs sur une base régulière. Puis encore là, c'est huit matchs, comme partant dans la Ligue nationale de football. C'est seulement deux années à l'université. Mm-hmm. Bref, il a joué de façon sporadique depuis ce temps-là.
Oui, et le style de jeu de la NFL, de la CFL, c'est pas pareil. Ici, les carrières de la NFL arrivent ici, puis évidemment, tout va vite. Le terrain est beaucoup plus grand, puis tu as un paquet de receveurs en mouvement. Fait que, il faut s'ajuster aussi avec ça. Les receveurs, normalement, sont un petit peu plus, peut-être un peu plus petits. Tu en as des gabarits qui n'ont pas nécessairement le profil d'emploi dans la NFL, mais qui sont relativement très rapides sur un terrain beaucoup plus large. Donc, il faut s'ajuster à cette cette nouvelle réalité-là qui est la CFL pour un carrière qui vient des États-Unis. Donc, laissons Menzel retrouver son rythme. Je suis convaincu que ce gars-là peut faire de grandes choses. Mais là, en même temps, t'as un gars comme Pimkin qui a le vent dans les voiles. Tu sais, il a super bien joué quand même, malgré une défaite. Il a quand même super bien joué lors de son premier départ. Il arrive à son deuxième départ et il signe une victoire. Donc, laissons le gars sur le terrain. Ça serait vraiment plate.
Pour tout le monde dans le vestiaire.
Pour tout le monde, parce qu'il semble être apprécié, ce gars-là, dans le vestiaire par tout le monde. Il est respecté, les gens en parlent en bien. Donc, d'arriver avec une décision comme ça, à froid, puis dire, bon, non, on met Menzel parce que c'est Johnny Football, puis on veut vendre des T-shirts. Comment?
Honnêtement, je pense que ce serait pas vraiment le fait de vendre des T-shirts. Ce serait peut-être plus encore. Oui, ça fait peut-être partie de l'équation. Mais je pense que le fait d'avoir donné deux joueurs pêchage et deux joueurs réguliers aussi, il y a le directeur gérant aussi qui veut justifier sa décision. On vient donner énormément pour ce gars-là. On juge que ce gars-là est le gars de l'avenir. S'il n'y a pas uniquement le T-shirt qui rentre en ligne de compte. Parce que je pense que les gens de marketing, je suis pas sûr que Kevus les écoute.
Mais c'est une
autre histoire. Complètement. Mais un qui avait hâte de revenir au jeu, là, c'est Johnny Manziel. On va écouter.
Ouais.
Il a trouvé le temps plutôt long durant sa remise en forme.
You know, they told me last week, early in the week, that, you know, it was probably looking like unlikely like I was going to be able to play. I know I wanted to and know I didn't. I've never missed 2 weeks ever in the past when I've had a concussion. So this has been a longer, slower process for me than I'm accustomed to. And I think it's definitely been frustrating. I definitely want to play. You know, I definitely want to get back and I'm itching and eager to get back. But like I said, I think we'll see how things play out.
Donc, au début de la dernière semaine, on a dit à Johnny Manziel, ben, ça a bien l'air que tu ne joueras pas cette semaine, en parlant du week-end dernier contre les Argonauts de Toronto. Il était déçu. Il dit, jamais j'ai manqué 2 semaines d'affilée en raison d'une commotion. Il dit, c'est sûr que je veux jouer et que je suis prêt, mais on va voir comment ça va se dérouler, en parlant du match d'aujourd'hui et des semaines qui viennent. Et quand je lui ai demandé aussi, ça fait combien de commotions depuis que tu joues au football? Sa réponse, je sais pas s'il le sait, mais il dit...
Aucun qui se souvienne.
Je ne sais pas vraiment. Je dis, est-ce que tu sais combien tu en as eu qui ont été diagnostiqués des officiels? Pas vraiment non plus. Bref, il y en a sûrement eu quelques-unes. Et je pense s'il veut poursuivre son retour vers la NFL, il veut pas en parler.
Non, puis c'est ça. Puis honnêtement, avec son style de jeu, tu sais, lui, il a tendance à faire une lecture et demie. et parce qu'il sait qu'il est capable de faire de grandes choses avec ses jambes. Donc, il fait une lecture et demi. Il passe pas à sa deuxième lecture vraiment. Il prend le ballon puis il court.
Quand il court, il continue de faire de la lecture cependant parce qu'il
il
a toujours la tête très haute pour continuer d'essayer de lancer le ballon.
Oui, sauf qu'il devient quand même, il s'expose énormément à des contacts qui peuvent effectivement lui faire mal. Donc, un carrière qui est mobile, c'est le fun. Mais on veut pas les perdre non plus. Là, t'sais, fait que. Espérons que ce gars-là va continuer à donner un bon spectacle, va être capable de courir autant que lancer le ballon, mais pour l'instant, il doit trouver son rythme, il doit être capable de se sentir à l'aise sur le terrain avant de revenir comme partant.
Un peu plus tôt, tu nous disais, on s'est cherché un quart arrière si longtemps que quand même on en aurait deux qui fonctionnent, ça fait dans le fond, ça fait notre affaire. Ben, si on écoute l'entraîneur-chef Mike Sherman, je pense qu'il est pas mal d'accord avec toi.
I think all three quarterbacks are quality quarterbacks. They all have different skills. They're different from each other in many ways and the same in others. But they're all good quarterbacks. We're fortunate because when we started this thing, we didn't know who our quarterback was, and it's getting the second half of the season. Things kind of fell away a little bit, and puts us in a much better position than when we started.
Il dit, on a trois quarts arrière qui ont des ressemblances, qui ont également des différences. Il entre Matthew Shields, qui sera le quart arrière numéro 3 ce soir dans le groupe. Mais il dit, on est chanceux dans le fond, parce qu'il dit, en début de saison, on savait pas si ça allait être qui notre numéro 1.
Ouais.
Il dit là, on a des options, un peu comme tu le disais tantôt. Pour le moment, c'est Antonio Pipkin. Qu'est-ce que t'aimes de ce que tu as vu de Pipkin au cours de ses deux premiers départs?
Ben, le gars, c'est sûr qu'il est, il est super calme. C'est ça, ça a été la différence, je pense, avec Menzel. Menzel, quand il est arrivé, je le trouvais nerveux. On en parlait même, il avait de l'air stressé dans la pochette. Lui, il était super calme à son dernier match. Il connectait relativement bien avec ses receveurs. Il avait un petit, je dirais, dans le premier quart, il avait un petit peu de difficulté à s'ajuster à la vitesse peut-être de ses receveurs. Manquait de précision un peu. Il s'est ajusté rapidement. Et honnêtement, il y a une belle fougue. Il y a eu, d'ailleurs, je sais pas s'il n'y a pas eu une pénalité sur un jeu la semaine passée. Il y a eu un toucher.
Pour avoir répliqué. Et quand il est revenu après le match, il a dit, je comprends pas, c'est la première fois que je me fais tapocher puis c'est moi qui ai pénalisé.
C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un compétitif dans l'âme. Il est sur le terrain. Il a beaucoup d'énergie. Puis tu le sens. C'est pour ça qu'il semble être respecté de ses collègues, de ses coéquipiers. Un peu la même chose que Menzel. Mais là, Menzel, on va le mettre de côté. On revient sur les carrières, là. Tu sais, Kavis Reid, oui, c'est le fun, il y a deux carrières, puis ils peuvent peut-être jongler avec ça. Mais il y en a un qui a une étiquette avec un prix qui a été très dispendieux, tandis que l'autre, on l'a laissé aller pendant le camp d'entraînement.
Et il arrive d'une université de deuxième division. Il n'arrive pas après un essai dans la NFL, mais il n'arrive pas comme choix au repêchage, alors que Manziel, c'est un choix de première ronde.
Puis tu sais quoi? Je pense que Pipkin le sait, ça. Lui, il arrive, il dit, garde, moi, je suis peut-être pas Pimpkin Football, là. Monsieur Football. J'arrive. Lui, il n'a absolument rien à perdre, mais tout à gagner. Tandis que Menzel, j'ai l'impression qu'avec cette étiquette-là, il a tout à perdre. Parce qu'on y met beaucoup de pression. Il doit absolument livrer. Sûrement.
Il se met lui-même de la pression également. Pipkin, on lui a demandé ce qu'il avait pensé de sa prestation la semaine dernière. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a deux semaines, je lui ai demandé, il a dit, on a perdu. Donc, il n'était pas satisfait. Il a dit, on a gagné. Mais il n'était quand même pas complètement satisfait. On écoute ce qu'il a noté sur sa performance.
We missed a few balls. Definitely we missed a few throws that were just inches away. Like we said before, it's a game of inches. And we're a few throws off early on in the first half. We dropped a couple bad balls for touchdowns. And we just want to get on the same page with certain routes and understanding where the receiver's going to be so I can put the ball and understanding where we kind of as quarterbacks want to put the ball so they can be where we want just to get on the same pace to score more points.
Si la semaine dernière, il nous disait qu'il aurait aimé pouvoir étirer ce qu'il avait fait en première demi lors de la deuxième demi, là, il dit, c'était en début de match. Il dit, on a manqué quelques passes par quelques pouces et on a besoin de répétition pour en arriver au bon synchronisme pour que nous, les quarts, on sache vraiment où le joueur va être pour où on va mettre le ballon et où on doit le mettre. Il dit, on a certainement... Puis là, on ne l'a pas eu dans cette réponse-là parce que ça, c'était trop... La mise en situation était trop longue, la réponse était trop courte. J'ai dit, est-ce que tu parles, par exemple, de la passe vers Adarius Bowman à la porte début? Il dit, the post? That should have been six.
Oui, c'est ça.
Le tracé poteau, ça aurait dû être 6 points. Il l'a encore sur le cœur.
Oui, puis honnêtement, tu sais, connecter avec ses receveurs, ça veut aussi dire qu'il faut que Ernest Jackson fasse la job. Il faut que ses receveurs, Cunningham, même au premier match, si tu te souviens, le premier match que Pipkin a joué, Cunningham, on n'est pas habitué de le voir échapper des ballons. On dirait que ce match-là, personne a
attrapé.
Ben oui, exactement. Le deuxième match, la semaine passée, on s'y est repris un petit peu, on l'a aidé. Aujourd'hui, on espère que les receveurs vont aussi faire la job. Il faut être capable d'attraper le ballon quand ça s'en vient dans notre direction, là.
Moi, j'espère qu'il va avoir le temps de le lancer parce qu'on a parlé constamment de la ligne à l'attaque et de la protection. Ben, c'est encore un challenge ce soir pour les Alouettes. Changement sur la ligne à l'attaque. Philip Blake est allé assister à la naissance de son enfant. Ça veut dire qu'on a un nouveau garde à gauche. Est-ce que ce sera, tel qu'on nous a écrit sur la feuille de formation, Sean Jamison avec le retour de Natai Rogers au bout de la ligne à droite? Ou, comme on a vu plusieurs fois à l'entraînement cette semaine, la recrue Trey Rutherford qui fait son entrée comme garde à gauche, un premier départ dans la Ligue canadienne. En passant, si jamais Rutherford commence le match, là, ça va être un 55e joueur différent qui amorce un match pour les Alouettes cette année. Il y a 24 joueurs, là. Il y en a 12 en défense, 12 en attaque. On a eu 55 partants depuis le début de la saison. C'est une dizaine de plus que n'importe quelle autre équipe dans la Ligue canadienne.
C'est pas ça qu'on appelle la stabilité. Hein?
Peut-être cependant qu'on va avoir 6 joueurs sur la ligne à l'attaque. Parce que en plus, le Tyrell Sutton était blessé la semaine dernière. Oui. On l'a remplacé par William Stenback. Fait de l'excellent travail, mais s'est blessé lui aussi. Et là,
les deux, hein.
On y va avec la recrue Ryder Stone ou un gars qui est arrivé cette semaine, Lawrence Pittman, qui a le format de l'emploi pour être capable de bloquer, mais après une semaine avec une équipe, je ne sais pas s'il va connaître les schémas de blocage suffisamment. Bref, ça risque de ne pas être évident. Penses-tu qu'on devrait y aller avec 6 joueurs sur la ligne à l'attaque?
Bien, on devrait peut-être, parce qu'une chose qui est sûre, les statistiques ne mentent pas. Montréal sont les derniers dans les sacs du corps alloués, évidemment, avec 32. Je vous donne un exemple. Les premiers, donc les meilleurs dans la Ligue contre les sacs du corps arrière, c'est Saskatchewan avec 12.
Il y en a encore des 12, puis Montréal en a accordé 32. Saint-Gertrude, ça fait mal, ça, des fois.
Donc, c'est sûr que c'est clair, au niveau de la protection, sont derniers à peu près dans toutes les statistiques. Donc, il faut que Montréal trouve une façon de protéger leur corps arrière. C'est peut-être une protection de zone, c'est peut-être couper le terrain en deux, peu importe, ou un sixième, comme tu viens de mentionner, un sixième joueur de ligne à l'attaque pour être capable de donner assez de temps pour Pipkin pour connecter avec ses receveurs.
Parce que les porteurs de ballon, c'est André Bolduc qui nous le disait, pour courir avec un ballon, il dit, il y en a plein les rues. Il dit, pour bloquer correctement, c'est une autre histoire. La bonne nouvelle pour André Bolduc, c'est qu'il retrouve un de ses vieux porteurs de ballon, le tout petit, Stephen Logan, le retourneur de beauté, qui peut agir comme demi-inséré, qui peut agir comme porteur de ballon, tout ça. Bref, ça au moins, c'est une bonne nouvelle pour André Bolduc, on l'écoute.
Là, la bonne nouvelle, c'est que Logan revient. Donc, j'ai mon vétéran là, d'une dizaine d'années qui revient. Je vais lui donner une charge de travail supplémentaire, évidemment. C'est un bon vet. Faut contrôler ce qu'il fait parce que c'est pas le plus gros gars en protection de passe. Donc, il y a beaucoup de jeux que Logan va pouvoir faire pour nous. Et on est très jeunes. Ryder, William, ce sont des jeunes qui s'améliorent de jour en jour. Et puis, c'est l'avenir, les Alouettes.
Parlons un peu de celui qui s'est ajouté à l'équipe. Est-ce qu'il touchera au ballon? Est-ce qu'il sera en protection? Le porteur de ballon, c'est Lawrence Pittman. Il n'a que 22 ans. Il vient de l'université Wingate en Caroline du Nord. Ça, c'est la même université que John Bowman. 6 pieds, 220 livres. Pour un porteur de ballon, ça, c'est un gros bonhomme. Mm-hmm. Il a définitivement le physique de l'emploi. L'année dernière, ça fait pas si longtemps, il n'a que 22 ans. Il a mené le circuit avec une moyenne de 114 verges de course par match. Il a 8 matchs de plus de 100 verges. Il a marqué 11 touches au sol. L'année dernière, 39 au cours de sa carrière. Il était le capitaine de son équipe et il a eu un essai avec les champions du Super Bowl, les Eagles de Philadelphie. Donc, quand vient le temps de courir avec le ballon, il est capable de faire le travail. Est-ce qu'il sait de quel côté se mettre du corps arrière et comment bloquer, ça, c'est une autre histoire.
Oui, c'est ça. Bloquer, c'est pas juste question de homme à homme. Des fois, c'est une question d'angle, une question de seconde. Ça arrive de partout. Il y a des blitz. Et souvent, sont attitrés à prendre justement un blitz qui vient de l'extérieur, peut-être du demi de coin. Mais honnêtement, moi, je pense que Logan va sûrement faire partie de cette rotation-là. Faut pas oublier que Logan, avant d'arriver dans la CFL, avait jamais fait de retour de beauté, là. Ici, il a été étiqueté comme un retourneur, mais c'est à la base, c'est un centre arrière. Donc, espérons.
Un demi offensif, centre arrière, ça pèse au moins 240.
Un demi offensif, t'as raison.
Parce que, et lui, il y a personne qui porte mieux le nom que demi que lui.
Parce que c'est une demi.
5 pieds 6, 180 livres. Il est vraiment. Il est rapide.
Il est la demi. Oui, c'est ça. Il est la demi de Pat Lavoie que lui est centre arrière.
Et lui,
vrai fullback.
Et lui, il sera certainement très utilisé. Avant d'aller en pause, un petit mot sur la défense montréalaise. Encore une fois, des changements. Un changement qu'on vient tout juste de nous annoncer. Le secondaire, Chris Aki, ne sera pas en uniforme. Lui qui partage le premier rang de la Ligue avec Enoch Mwamba. Également des Alouettes pour le nombre de plaqués. Blessure à la cuisse. A tenté avant le match de prendre part à l'échauffement, mais ne pourra pas jouer. C'est donc Glenn Love qui prend sa place. Ça, c'est un gros morceau qui va manquer à la défense des Alouettes.
Effectivement, Aki, c'est un gars qui roule à 100 000 à l'heure sur le terrain. Il est sur à peu près toutes les plaqués. Il progresse bien aussi défensivement. On le voit que même par rapport au début de la saison, il progresse vraiment super bien. C'est rendu un pilier à défensive. Puis là, ben, évidemment, malheureusement, avec cette blessure-là, ben, au moins, c'est arrivé aujourd'hui. En fait, ils ont fait des changements aujourd'hui. Est-ce que Ottawa va commencer à peut-être attaquer ce coin-là? On verra.
Et il y a un autre changement, le retour du vétéran Gabe Napton, celui qu'on avait donné au Lion de la Colombie-Britannique pour obtenir Chris Williams. Il est de retour, il a été libéré par les Lions, qui n'en avaient plus vraiment besoin avec l'arrivée d'Odell Willis.
Exactement. Est-ce que Stubler, ça vient de donner peut-être une option de retourner dans un système défensif qui jouait au début de la saison? Il essayait une 34 avec les frères Westerman, ils ont essayé ça, ça n'a pas fonctionné. Ben, ils n'ont pas donné beaucoup, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de pression.
Par 34, on s'entend.
Trois joueurs de ligne défensive et quatre secondaires. Et ils ont été obligés de revenir à 43. Donc, notre défensive habituelle, standard, typique dans la Ligue canadienne. Et là, est-ce que Napton, avec peut-être Barron au centre et Bowman à l'extrémité, est-ce qu'on peut revenir avec une 34? Parce qu'on pourrait peut-être ajouter Nick Boulay comme quatrième secondaire. On serait solide comme ça, mais il faut absolument que pour faire ça, il faut absolument que les trois joueurs sur la ligne défensive soient capables de mettre de la pression sur le carrière.
Seulement à trois.
À trois, et c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire. Stubler aimait beaucoup une 34 dans le temps qu'il était avec Toronto. Et donc, on ne le sait pas. Mais Napton, effectivement, il était sous-utilisé à Vancouver. Il revient ici à Montréal. Il est heureux de revenir à Montréal. On lui donne un petit peu un deuxième souffle. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va faire une différence? Je pense que oui. Il va être craqué. Il va avoir le couteau dans les dents. On va voir.
J'ai hâte de voir parce qu'il était le premier sur le terrain lors de la période d'échauffement aujourd'hui. Il avait visiblement hâte. Au retour, il faudrait bien parler un peu des méchants. Le rouge et noir d'Ottawa qui est en tête dans l'Est et qui accueille les Alouettes. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco. Déjà un troisième affrontement cette saison entre le rouge et noir d'Ottawa et les Alouettes. Le rouge et noir qui tente de balayer la série annuelle contre les Alouettes pour une deuxième année d'affilée. Les Alouettes ont battu le rouge et noir trois fois. La première année qu'Ottawa est revenu dans la Ligue. Depuis ce temps, 10 victoires, une défaite pour Ottawa. Et c'est un peu beaucoup grâce à Trevor Harris depuis qu'il est quart partant. 7 victoires, une défaite contre les Alouettes. 73% de passes complétées, 16 passes de toucher et 4 interceptions. Puis si jamais Trevor Harris, ça ne marche pas, il donne le ballon à William Powell.
Ouais.
Puis c'est ce qu'ils ont fait lors du dernier match. C'est toute une commande qui attend la défense des Alouettes.
109 verges, je me trompe pas, au dernier match contre Winnipeg. C'est sûr que Powell, c'est un gros morceau de l'attaque pour Ottawa. Je pense que défensivement, on peut contenir Powell, par contre. Mais tu contiens Powell, et qu'est-ce que tu fais?
Ben, Brad Tinopoli devient disponible.
Tu distribues le ballon à Ellingson, Tinopoli, des gars qui...
Dominic Rimes.
Rimes, effectivement. Ils ont tellement d'outils offensivement, ces gars-là. Je pense que c'est un gros mandat pour Montréal d'arriver ici et gagner à domicile contre Ottawa. Mais tu sais quoi? J'aime les chances, au moins que Montréal peut peut-être arriver ici avec surfer un petit peu la vague de la semaine passée de la victoire. Puis on va voir si les gars sont capables de continuer à faire du bon travail et continuer à progresser contre une attaque explosive comme Ottawa.
Pour mettre un bémol à ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu nous dis plus souvent concernant la défense des Alouettes depuis le début de la saison?
La couverture de passe. Et imagines-tu, hey, Ellingson, Tinopoli, des top receveurs dans la Ligue, si tu leur donnes un peu d'espace, ça peut être une longue journée.
Tu nous dis souvent que les courtes passes, la défense montréalaise est particulièrement fragile face à ça. Il n'y a personne qui a lancé plus de passes de moins de 10 verges cette année dans la Ligue canadienne. Il n'y a personne qui en a lancé plus que Trevor Harris. Bref, une grosse commande pour la défense des Alouettes ce soir. Là-dessus, on va aller en pause. Au retour, le botté d'envoi de ce match entre les Alouettes de Montréal et le Rouge et Noir d'Ottawa. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco.